Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Bélard Mouilly, il est journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-cd.com. Bonjour Bélard Mouilly.
Bonjour Guy Maté, bonjour.
Madame Aimée Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repas sans sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Bonjour Madame Aimée Magnong.
Bonjour Monsieur Maté, bonjour tous les invités.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Gras, il est journaliste au magazine Jeune Afrique. Bonjour Romain Gras.
Oui, bonjour Guy, merci pour l'invitation.
Et merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Bélard Mouilly, il est journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-cd.com. Madame Aimée Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, Repas sans sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Gras, il est journaliste au magazine Jeune Afrique. Au menu de cette émission, le partenariat entre la RDC et l'Ouganda dans un contexte où l'Ouganda est de plus en plus épinglé pour son soutien aux rebelles du M23, le glissement de la violence des EDF sur les territoires de l'Ubero jusque-là épargné par les massacres de ces mouvements terroristes, et enfin les défis qui peuvent freiner l'élan Kanyamakassese en dépit du fait que ce service vient d'acquérir ses premières locomotives. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la séance de travail qui a réuni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le gouverneur des provinces nouvellement élus. En effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a recommandé mercredi 19 juin aux gouverneurs des provinces de prioriser dans la gestion de leurs entités les 6 piliers du gouvernement. Il leur a fait cette recommandation lors de la séance d'information organisée à Kinshasa. Pour Jacquemain Chabani, ces 6 axes prioritaires permettront à ces chefs des exécutifs provinciaux d'assurer le développement et la stabilité de leur juridiction. Outre les recettes à caractère national, le ministre de l'Intérieur a demandé aux gouverneurs des provinces de fouiner partout pour mettre en branle les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et les textes réglementaires. Bélard Mouilly, que vous inspire cette démarche du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani?
Bien, cette démarche m'inspire deux réactions. La première est que c'est une bonne chose, d'abord, un nouveau gouvernement entre en fonction au niveau national, et très bientôt, les gouvernements provinciaux vont également entrer en fonction. Et qu'il était impérieux que les deux échelons du pouvoir, les deux paliers du pouvoir exécutif de notre pays puissent se rencontrer afin d'harmoniser certaines choses. Il en est ressorti quelque chose que j'approuve, par exemple, c'est le fait que le ministre de l'Intérieur a demandé au gouverneur de province que le nombre de ministres ne doit pas dépasser 10, conformément à l'article 23 de la loi portant libre administration des provinces. Parce que depuis un certain temps, on a remarqué que de nombreux gouverneurs trichaient avec cette loi en nommant 10 ministres provinciaux, certes, mais en y ajoutant d'autres responsables qu'on appelait commissaires spéciaux. Donc vous avez ministre des Finances, ministre de l'Économie, vous avez commissaire spécial à l'énergie, commissaire spécial à l'agriculture. C'était une façon de nommer d'autres ministres, en plus des 10 constitutionnels et légaux, pour, comment dire, satisfaire les ambitions des amis ou des membres de partis politiques. Donc il faut s'en tenir à ce que la Constitution et les lois de la République ont dit. La deuxième réaction est que le ministre de l'Intérieur n'a pas à donner des injonctions sur la démarche programmatique des gouverneurs de province, des gouvernements provinciaux. Non. Dans notre pays, la Constitution de 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de nos entités territoriales, y compris les provinces. Après avoir énuméré le nombre de provinces, la Constitution pose le principe de leur libre administration et de l'autonomie de leur gestion. Donc, un gouverneur est élu sur base de son programme, autant que le président est élu aussi avec son programme qu'il va appliquer au niveau national. Une fois élu, le président n'a pas à dire au gouverneur « voilà ce que doit être ton programme ». Non, ça ne se fait pas comme ça. Nous ne sommes pas sous le parti État, sous Mobutu, non. Nous devons rappeler chaque fois à nos amis de l'UDPS que leur parti s'est battu contre le jacobinisme à outrance qui avait lieu dans ce pays quand Mobutu était au pouvoir. L'UDPS s'était même fait le chantre du fédéralisme afin que le niveau provincial de gouvernance puisse avoir toute sa liberté afin de conduire sa politique comme il l'entend, comme il avait promis à ses électeurs au niveau provincial. Donc, le ministre ne doit pas penser que nous sommes sous le parti État où c'est le gouvernement central qui dit aux gouverneurs de faire ce qu'ils ont à faire. Non, ça n'empêche pas le président de la République et son gouvernement d'implémenter en travers tout le pays son programme tel qu'il avait promis. Le gouverneur aussi doit être libre de pouvoir implémenter le programme provincial sur base desquels ils ont été élus. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci, Madame Memanyongo. Quelles sont les marges de manœuvre ou quelles pourraient être les marges de manœuvre des gouverneurs dans un environnement caractérisé par la non-application de la disposition relative à la retenue à la source des 40%, un contexte caractérisé par une rétrocession insuffisante et qui tombe au compte-goutte, et aussi, Bélar Mouy venait de les relever. Cette sorte d'interférence dans la gestion des provinces des autorités morales à partir de Kinshasa, et lorsque le ministre dit au gouverneur ce qu'ils doivent faire, alors que ceux-ci doivent élaborer leurs propres programmes qu'ils doivent défendre devant les assemblées provinciales. Quelles sont, à votre avis, les marges de manœuvre des gouverneurs dans un tel contexte? Allô, Madame Aimée Manyongo, est-ce que vous êtes là? Voilà, je pose la même question à Romain Gras. Est-ce que vous pouvez répondre à la même question? Quelles sont, à votre avis, les marges de manœuvre des gouverneurs dans un contexte où l'application de la disposition constitutionnelle relative à la retenue à la source des 40% n'est pas respectée, où la rétrocession tombe au compte-goutte, et où on a l'impression que Kinshasa veut maintenir, n'est-ce pas, une sorte de domination sur les différentes provinces?
J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit mon co-intervenant tout à l'heure et sur la dernière dimension que vous avez abordée. Moi, je pense que l'intervention du vice-premier ministre Jacquemin Chabani, elle dit beaucoup de la volonté du gouvernement de maintenir une certaine forme de discipline chez les gouverneurs de province au début d'un deuxième mandat qui a commencé avec du retard, au sens où le gouvernement national a été nommé avec plusieurs mois de retard, où les gouverneurs de province ont eux-mêmes été élus après des élections qui ont été repoussées. Et donc la vie politique congolaise a été plongée dans une forme de léthargie pendant plusieurs mois. Et on voit dans l'intervention du vice-premier ministre et dans la communication gouvernementale en général qu'il y a l'impératif aujourd'hui de montrer qu'on va prendre des mesures pour faire en sorte que le programme du gouvernement soit appliqué. Et je, sur la dimension de l'immixtion de Kinshasa dans la gestion des gouverneurs de province, je pense qu'il y a aussi une leçon qu'il ne faut pas oublier, c'est celle du premier mandat, et Félix Tshisekedi l'a sans doute encore en tête, au sens où il en a lui-même bénéficié, c'est que les gouverneurs de province peuvent par moments être volatiles. Félix Tshisekedi n'avait pas de gouverneur, pas, avec très peu de gouverneurs qui lui étaient fidèles au début de son mandat. Il a réussi, au regard du renversement de majorité qu'on a connu, à désormais avoir des gouverneurs qui lui sont fidèles. Donc il y a la volonté aussi de la part de Kinshasa de garder une forme de contrôle, malgré l'ambition de dire il faut que la décentralisation soit plus efficace, il y a l'ambition de garder une forme de contrôle sur les gouverneurs de province.
Oui, Romain Gras, s'il faut faire une sorte de parallélisme avec la France, évidemment chaque pays a ses réalités, les mêmes faits qui sont dénoncés ici en RDC, entre autres la mainmise du pouvoir central sur les provinces, la faible mobilisation des recettes par les provinces, et ajouter à cela, n'est-ce pas, la cohabitation difficile entre les institutions provinciales, si le problème n'est pas vécu de la même façon, de la même manière en France, mais est-ce qu'il peut y exister des similitudes?
Le système n'est pas du tout conçu de la même manière. Il n'y a pas le même monolithisme par ailleurs en termes de représentativité des partis politiques. Donc pour le coup, je pense que ce n'est pas un parallèle qui est le bienvenu dans le cas présent.
Merci beaucoup. Madame Emmanuel, est-ce que vous êtes là? Madame Emmanuel, vous êtes là? Apparemment, elle n'est toujours pas là. Et on prend une pause avec Yolele de Papa Wemba et on revient juste après. Thank you. C'était Yolélé avec Papa Wemba qui, au mois d'avril dernier, a totalisé 8 ans dans l'au-delà. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. Nord Kivu, la situation était incertaine ce vendredi matin dans la région de Kanyabayonga, à la limite entre Bouito et le sud de Lubero. D'après nos sources, des affrontements à l'artillerie lourde se poursuivent dans cette région où les deux parties se lancent des bombes. En outre, la coalition FRDC-Ouazalendo a réussi jeudi à repousser les rebelles sur l'axe Ruindi Park, mais aussi l'axe Lusowa, Bulindi et Butalongola, affirment les notables de la région. D'autre part, nos sources rapportent que certaines localités ont été récupérées par les Ouazalendo ce même jeudi dans la partie de Bouito en territoire de Rutshuru. C'est notamment Kabizo, Mulimbi, Butare, Bambo, Bundase et Mushababwe. Les rebelles du M23 auraient dégarni ces villages pour aller se concentrer sur le front nord autour de Kanyabayonga et automatiquement les Ouazalendo ont récupéré ces localités, confirment plusieurs sources. Romega, vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique. Vous avez souhaité nous parler du partenariat entre la RDC et l'Ouganda dans un contexte où l'Ouganda est de plus en plus épinglé pour son soutien aux rebelles du M23. On vous écoute.
Je voulais dire, on est dans une dynamique aujourd'hui où le front qui s'était beaucoup concentré au mois de février-mars autour de Goma semble se pousser aujourd'hui vers le nord, vers Kanyabayonga, au nord des positions que le M23 occupe aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, il y a un paramètre sur lequel je trouvais qu'il était intéressant de revenir, c'est qu'il y a aujourd'hui une certaine ambiguïté dans le discours de certains officiels congolais, au sens où, si vous vous souvenez, le 22 mai, dans son discours inaugural en tant que président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a épinglé le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Et il est l'un des rares officiels congolais à en parler ouvertement aujourd'hui, au sens où la quasi-totalité des officiels intègrent dans leur discours la notion du soutien du Rwanda aux rebelles du M23, mais la question de l'Ouganda est beaucoup plus trouble, beaucoup plus ambiguë dans la façon dont elle est abordée, alors que, d'une certaine manière, des soupçons pèsent sur le rôle que joue Kampala dans ce conflit depuis le début de la résurgence du M23 fin novembre 2021. Je pense qu'ils ont été largement renforcés par la chute en juin 2022 de Bunagana, où Kampala, notamment par les experts de l'ONU, est à minima suspecté d'avoir laissé faire. On sait aujourd'hui de sources locales et sécuritaires que la frontière entre les deux pays demeure poreuse et qu'il existe des mouvements de troupes rebelles d'un côté et de l'autre des postes de Bunagana et de Kisoro, par exemple. On sait également qu'il existe des liens entre certains cadres du M23 et une partie de l'establishment militaire ougandais, des liens qui ont été noués notamment après la défaite de la première version du M23. En 2013, où beaucoup de cadres, comme Bertrand Bizimwa ou Sultani Makenga, ont trouvé refuge, se sont exilés du côté de l'Ouganda. Et aujourd'hui, il y a une autre donne qui a émergé ces derniers mois, c'est celle de l'Alliance Club Congo, que coordonne l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, et qui est suspecté lui aussi, par diverses sources, d'avoir effectué des déplacements en Ouganda dans les mois qui ont précédé la formation de l'AFC. Donc aujourd'hui, il y a un jeu un peu trouble qui s'est installé entre Kinshasa et Kampala, et aujourd'hui, ça pose plusieurs problèmes, parce que, et on y reviendra sans doute dans le sujet de mon co-intervenant, Kinshasa est engagé avec Kampala dans une opération conjointe qui est très stratégique pour Kampala contre les ADF, que Kampala a des intérêts économiques aussi à préserver, qu'il y a ce projet de route qui avait été lancé en novembre 2021 et qui, pour certains observateurs, aurait pu motiver à l'époque la résurgence du M23. Et du côté congolais, il existe des suspicions et la conscience que l'Ouganda, si vous voulez, n'est pas forcément neutre. En tout cas, c'est ce qui revient dans le discours de certains des conseillers de Félix Tshisekedi, n'est pas fondamentalement neutre dans ce conflit. Mais en même temps, il y a la réticence du côté congolais à ouvrir un autre front diplomatique au sein de l'EAC avec le voisin ougandais, avec qui on est engagé dans une opération conjointe, mais surtout à un moment où les relations diplomatiques sont déjà désastreuses avec le Rwanda, comme on le sait, et qu'elles sont déjà compliquées avec le Kenya depuis le lancement à Nairobi de l'alliance Fleuve Congo. Donc aujourd'hui, il y a une forme de jeu trouble de Kampala qui s'est installé dans ce conflit, mais à la fois, il y a la volonté du côté congolais de rester prudent pour ne pas compliquer encore plus une situation sous-régionale qui est déjà très inflammable.
Oui, Romegra, à votre avis, quelle est la carte que joue l'Ouganda en accompagnant la RDC dans la lutte contre les EDF dans les Grands Nord et en Ituri, pendant que le même partenaire ougandais est accusé de soutenir la rébellion du M23 au Nord Kivu.
Ben, l'opération Shujaa, elle a été, on se souvient qu'il y a 2 ans et demi maintenant, elle a été négociée à la suite d'attaques des ADF sur le sol ougandais. Il y a tout un discours qui existe depuis des années en Ouganda et qui est l'un des piliers, j'allais dire, sur lesquels Yoweri Museveni s'appuie pour justifier aussi une partie de sa longévité, c'est celui de la stabilité sécuritaire de son pays. Donc il y a un argument très stratégique pour lui à s'engager dans cette opération conjointe avec la RDC. Avant qu'elle soit officialisée, cette opération, il en a lui-même beaucoup parlé dans divers médias. Donc cette opération, elle est très stratégique d'un point de vue sécuritaire pour Yoweri Museveni. Elle est aussi d'un point de vue économique parce que cette opération a lieu aussi dans une zone où l'Ouganda poursuivait à l'époque, au moment où elle a été lancée, ce projet de route qui faisait notamment polémique entre le Rwanda et l'Ouganda qui, à l'époque, s'entendaient moins bien qu'ils ne s'entendent aujourd'hui. Donc il y a cette dimension d'un côté, et un soutien plus prudent, plus discret vis-à-vis du M23. Maintenant, reste à savoir s'il est prudent et discret, justement, parce que l'Ouganda ne peut pas se permettre, de par les intérêts qu'elle a en RDC, d'être plus franc, j'allais dire, dans son investissement aux côtés du M23.
Merci, Bélar Mouy. Vous êtes journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-cd.com. Face à ce qu'on peut qualifier de duplicité de l'Ouganda, quelle devrait être l'attitude de la RDC?
Bien, quelle devrait être l'attitude de la RDC? La question fondamentale, c'est de savoir est-ce que la RDC ignorait que l'Ouganda était susceptible de soutenir le M23? Parce que rappelons-nous, lorsque la première version du M23, le M23 maison mère, si on peut parler comme le musicien de Kinshasa, il y avait eu une distension entre, au sein du M23 de départ, hein, c'est de 2012, il y a eu un groupe minoritaire conduit par politiquement par le pasteur Runiga, avec comme chef militaire Bosco Ntaganda. Et de l'autre côté, un groupe majoritaire, conduit par Bertrand Bissimwa pour la branche politique et Sultani Makenga pour la branche militaire. Alors, le groupe majoritaire avait attaqué le groupe minoritaire, le groupe minoritaire avait fui vers le Rwanda. Ils sont réfugiés là-bas, ils y sont restés, et le groupe majoritaire est resté, ils ont conquis Goma seul, et après, ils sont remontés quand la brigade spéciale de la MONUSCO est arrivée, avec les bombardements qu'il y a eu par les Tanzaniens, les Sud-Africains qu'on sort, bon, ils sont dispersés, eux sont partis en Ouganda. Donc c'est là que le gros du M23 est parti en refuge, en début 2013. Alors ils y sont restés, l'Ouganda ce n'est quand même pas n'importe quel état sur le plan régalien, c'est vraiment un état fort sur le plan de l'organisation, de l'administration. Alors, ils avaient été placés dans des camps loin de la frontière du Congo, comme le veut les conventions internationales. Mais en 2017, ces gens qui étaient en Ouganda, c'est eux qui sont rentrés au Congo. Se sont installés dans la forêt de Tianzu, qui est frontalière, non pas du Rwanda, mais de l'Ouganda. Ils sont installés là-bas. Et l'Ouganda, à l'époque, avait fait un communiqué pour dire qu'ils avaient fui. Sérieusement, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut croire une chose pareille? Des combattants d'un pays voisin qui sont réfugiés chez vous, ils sont cantonnés dans un camp militaire, il y a la sécurité autour. Et ils sont à plus de 150 km. Comment peuvent-ils fuir? Cette sécurité ne les voit pas. Et ils font une distance aussi longue, ils traversent la frontière, ils rentrent chez eux, sans que l'armée ougandaise, les autorités ougandaises aient laissé faire. Non, c'est difficile à croire, c'est difficile à imaginer. Ils sont donc rentrés, se sont installés chez nous au Congo en 2017, mais ils sont restés sans faire d'activité militaire. Jusqu'en 2022, lorsqu'il y a eu la résurgence du mouvement, et subitement ils se retrouvent avec beaucoup d'armes pour pouvoir tenir tête aux forces armées nationales de RDC, les FARDC, aller même à la conquête de Bunagana. D'où sont venues ces armes? Parce que quand ils sont entrés en Ouganda, ils avaient été désarmés. Et ça, on peut en être sûr, l'Ouganda l'avait fait. Alors, d'où sont venues les nouvelles armes? sont-elles venues de Kigali ou seulement de Kigali? Est-ce que l'Ouganda n'y a joué aucun rôle? Tout ça paraît assez trouble quand même. Et puis, les premières zones opérationnelles dans lesquelles le M23, nouvelle version, s'émeut, c'est à la frontière de l'Ouganda. Donc, ils vous prennent Tchanzu, Runyoni, ils vont jusqu'à Bunagana. Tout ça, c'est fait à la frontière de l'Ouganda. Et comme l'a dit Romain tout à l'heure, on a vu Corneille Nangaï passer par Kampala avant de joindre les zones sous administration rebelle. Et il n'y a pas longtemps, une foutre du rapport des Nations Unies a expliqué également que des cadres du M23, parmi lesquels Corneille Nangaï, mais aussi Lawrence Kanyuka et quelques autres, s'étaient rendus à Kampala. Ils ont croisé un journaliste très influent d'ailleurs à son bureau. Et celui-ci a joué une médiation pour eux, pour être reçu au niveau de certaines chancelleries occidentales importantes pour faire passer le message de M23, c'était à Kampala. Donc, ils peuvent pas se mouvoir comme ça d'un coin à un autre sans que le gouvernement de l'Ouganda ne soit...
Justement, Bernard Mouilly, que devrait faire le gouvernement congolais? C'est quoi la position que le gouvernement congolais devrait adopter face à cette situation?
Bon, le gouvernement congolais, dès le début, il y a ce problème. Bon, au niveau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe n'est pas le premier. Même Mbosso, quand il était président de l'Assemblée nationale, il accusait également aussi l'Ouganda. C'est au niveau du gouvernement, de l'institution gouvernement et de la présidence de la République que on a toujours préféré fermer les yeux sur les activités de l'Ouganda. Peut-être que, pour plusieurs raisons, peut-être, la première chose, il fallait pas affronter au même moment deux pays voisins qui, si ils entraient en guerre ouverte contre le nôtre, leur puissance de nuisance serait beaucoup plus importante que si on a affaire à un seul. Ça, c'est un des deux. Le gouvernement a préféré d'abord attaquer celui dont la dénonciation est plus mobilisatrice au niveau de la RDC, quoi. Donc, quand vous dites c'est le Rwanda, vous mobilisez plus facilement les gens, étant donné tout ce discours de haine qui, pendant des années, a été distillé contre le Rwanda, notamment dans les réseaux sociaux, notamment par des gens comme les Honoré Mbanda, Patrick Mbeko, Bokechu et consorts, tout ça dans la diaspora, là. Quand vous parlez de l'Ouganda, bon, ça paraît un peu, les discours paraît un peu à fond, quoi. Donc, ils ont préféré là où c'est plus mobilisateur. Mais là, ce qui devrait être le cas, c'est quoi? C'est de dire, voilà, nous dénonçons tous ceux que nous estimons qu'ils soutiennent la rébellion du M23. Au même titre, voilà, c'est ce qui devrait être fait. C'est Merci. Ça. On n'a pas à protéger un agresseur et crier sur un autre alors qu'ils sont deux. Ça ne tient pas, ça n'a pas de logique, ça.
Merci. La réalisation me signale que Mme Mme Manyong est là. Mme Mme Manyong, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Monsieur Maté.
Voilà, je crois que vous l'avez compris. Nous sommes en train de parler du partenariat entre la RDC et l'Ouganda dans un contexte où l'Ouganda est de plus en plus épinglé pour son soutien aux rebelles du M23. On sent une sorte de silence de la part du gouvernement congolais. Est-ce que ce silence du gouvernement congolais n'est pas le reflet de l'embarras dans lequel se trouve ce gouvernement face à son allié ougandais?
Merci beaucoup, Monsieur Maté. Je me pose la question si je dois rebondir sur le propos que vous venez de tenir là, dire que la RDC se trouverait dans un embarras face à l'attitude du Rwanda vis-à-vis de la RDC. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison d'être embarrassé, parce que c'est une guerre qui fait beaucoup plus de victimes, et principalement les femmes. Et il y a un pillage systématique de nos ressources par des gens que nous avons déjà très bien identifiés. Et je ne vois pas pourquoi cet embarras devrait bien être ressenti au niveau du gouvernement congolais pour dénoncer un agresseur qui est en train de vous déstabiliser. Notre pays, nous avons dit, c'est une démocratie qui n'est pas très vieille, mais qui n'est pas non plus trop jeune, mais qui peut s'assumer pour regarder en face ses adversaires et prendre des décisions assez courageuses, importantes, pour dénoncer l'infiltration ou la rébellion que nous impose l'Ouganda. L'Ouganda est venu comme un partenaire, mais là, il est en train de soutenir les forces qui nous agressent, celles que nous avons déjà dit que c'était des agresseurs bien identifiés. Et l'Ouganda est derrière, c'est bien expliqué, c'est bien compris, ça fait trace noir sur blanc. On n'a pas besoin des lunettes, on n'a pas besoin d'un laboratoire pour comprendre cela parce que c'est bien clair. Et mais pourquoi cette léthargie du gouvernement congolais? C'est alors qu'on est en train de croire qu'il y a une sorte de complicité entre certaines autorités qui sont aux commandes des forces de défense et ces forces qui nous sont en train de nous agresser. Moi, je ne comprends pas cet embarras. Moi, j'aurais bien voulu que la RDC puisse le dénoncer et le dire par des communiqués, dire que nous sommes agressés par l'Ouganda malgré le contrat qu'ils ont déjà signé en termes de partenariat, parce que ça, c'est une politique d'Autriche. Et la RDC n'a pas à y aller par les dos de la cuillère. Ce sont les intérêts de la République, c'est la vie des citoyens congolais qui est mise en péril, et tout ça, c'est un problème sérieux du gouvernement. Et alors, ils doivent s'assumer pour prendre cette chose à bras le corps. C'est cette question, je voulais dire.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, c'est vendredi 21 juin, le monde a célébré la journée mondiale de la musique. On va écouter Omanga, Diseigneur Rofiero Tabouley, l'un des pionniers de la rumba, une façon pour nous de célébrer cette journée mondiale de la musique. On écoute donc Omanga et on revient juste après le journal de 8h.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la séance de travail qui a réuni à Kinshasa le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et le gouverneur des provinces nouvellement élus. Nous avons également analysé les partenariats entre la RDC et l'Ouganda dans un contexte où l'Ouganda est de plus en plus épinglé pour son soutien aux rebelles du M23. Participe à cette émission, Bélard Mbouy, il est journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-td.com. Madame Aimée Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repaf en sigle, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, et Romé Gras, il est journaliste au magazine Jeune Afrique. L'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni au Nord Kivu a dénoncé mardi 18 juin les tueries des civils par les rebelles des ZDF depuis les débuts de ce mois dans les groupements de Baswa Madiwe. Au moins 75 civils ont été tués selon la société civile, 41 selon un bilan communiqué par le gouvernement. Dans un communiqué publié mardi, Mgr Melchisedek Sikuli Paluku parle des populations laissées sans défense et sans sécurité. Les prélats catholiques déplorent également de nombreux cas de femmes violées, des maisons d'habitation, structures sanitaires et autres installations commerciales incendiées par les assaillants. Bélard Mbouy, vous avez souhaité nous parler de ce que vous appelez glissement de la violence des ZDF sur le territoire de l'Oubérou, jusque-là épargné par les massacres de ces mouvements terroristes. On vous écoute.
Oui, justement, j'ai été très frappé négativement de voir que le territoire de Lubero, qui jusque-là, depuis la dizaine d'années que les ZDF commettent des massacres dans Beni avant de glisser vers l'Ituri, Lubero est resté vraiment en dehors du périmètre touché par la violence. Alors, que Lubero aussi soit touché finalement, ça veut dire que tout le Nord Kivu, d'un coin à l'autre, tous les territoires Nord Kivu sont frappés par la violence désormais. Et ça, c'est un très mauvais signal, parce que ça démontre l'échec total de l'état de siège qui avait été décrété au mois de mai 2021, avec pour objectif d'éradiquer tous les groupes armés. On se rend compte qu'aujourd'hui, trois ans plus tard, aucun groupe armé n'a été éradiqué. Bien plus d'une centaine, ils sont passés à 266. Nous avons au Tanganyika 19 groupes armés, tous nationaux. Nous avons au Maniema 20 groupes armés, tous nationaux. Au Sud Kivu 136, dont 5 étrangers. Au Nord Kivu 64, dont 7 étrangers. À Ituri 20, dont 2 étrangers. Aujourd'hui, donc, le gouvernement n'a réussi à neutraliser aucun de ces groupes armés. Ça, ce sont les chiffres qui nous viennent du programme national de réinsertion, démobilisation, réinsertion, réinstallation, hein, qu'ils avaient donné de manière tout à fait officielle. Et là, on n'avait pas compté les mots Bondo de Maïndombe qui sèment la terreur juste dans la périphérie orientale de la ville de Kinshasa même, ni encore le nouveau groupe qui se signale en province, ex-province orientale dans la province de la Tchopo, dont le dernier massacre retentissant date du 13 juin dernier, à Bafouassende, qui a fait autour de jusqu'à 60 morts selon certaines sources, et qui serait dirigé par un autre vatanguerre du nom de Chokoro, général autoproclamé Chokoro, quelque chose comme ça. Plusieurs villages du groupement de Loya sont vides actuellement et les gens sont en forêt. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des massacres dans l'Oubéro. Donc ça montre que le gouvernement ne se montre pas suffisamment fort pour pouvoir sécuriser l'ensemble du territoire national. Et ça permet à ces ZDF de pouvoir faire de tels massacres de façon aussi impunie. Or, ça se passe au moment où la RDC est en alliance, en une forme de mutualisation de forces avec l'armée ougandaise pour combattre ces mêmes ZDF. L'opération Shujaa dont Romain a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Alors qu'est-ce que moi je regarde, qu'est-ce que moi je constate? Je constate que l'opération, en fait, avait été lancée suite aux attentats que les ZDF avaient commis en Ouganda. Et l'Ouganda L'ADC doit comprendre ça. L'Ouganda doit, me semble, être plus préoccupé par l'éloignement de la menace de ses frontières, plutôt que de neutraliser en sorte les ADF en tant que tels. Ce qui préoccupe l'Ouganda, c'est de les voir aller plus loin à l'intérieur du Congo. Donc lorsque certaines de leurs bases sont détruites, eh bien, ils s'en vont beaucoup plus loin. C'est suite à cette opération Soudia que les ADF ont atteint l'Ituri. Par exemple, on a fait des massacres dans le territoire de Irumu, par exemple. Donc, le gouvernement congolais doit pouvoir comprendre cela, essayer de prendre la menace de la mesure très au sérieux, essayer de trouver des solutions adéquates contre cette menace. Il faudrait donc formuler une stratégie nationale.
Oui, cette stratégie peut passer par quoi, Bélan Mbouyi? Que le FARDC ou la RDC demande à son partenaire ougandais de repenser l'approche, au lieu de combattre les rebelles dans le sens de les pousser à entrer à l'intérieur du territoire congolais, les combattre de manière à les amener vers l'Ouganda? Est-ce que c'est ce qu'il faut proposer?
Non, pas du tout. Ils peuvent jamais, de toute façon, si on le leur proposait, ils n'accepteraient jamais une chose pareille. Non, il faudrait arriver à les neutraliser, donc c'est-à-dire à les détruire. Les EDF, c'est pas des gens comme le M23 ou d'autres groupes armés, des gens qui ont un discours qui vous disent nous voulons négocier. Sincère ou pas sincère, on ne sait pas, mais ils, au moins ils disent voilà, nous voulons négocier. Non, les EDF ne veulent pas négocier. Ils veulent instaurer un califat. Donc ils veulent transformer tout le monde en musulmans d'obédience salafiste dans un territoire où règne la loi islamique, la charia. C'est tout ce qu'ils ont comme objectif. Avec des gens comme ça, il n'y a aucune négociation possible parce qu'ils... Donc il faut arriver à les neutraliser totalement. Donc, il y a des formations adaptées à la guérilla, dont il faudrait, doter nos FARDC. Parce que nos FARDC, c'est une armée régulière, il a certaines pratiques opérationnelles qui ne sont pas celles qu'utilisent une guérilla qui vit mêlée à la population, ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est cela. Donc il faudrait repenser un peu tout cela. En plus, il y a certaines choses qui sèment une certaine incompréhension dans l'opinion publique. Il y a plusieurs cadres dirigeants des ADF qui ont déjà été capturés ou arrêtés en certaines circonstances. Je peux évoquer le cas de ce monsieur Benjamin Kisokiranyo, qui avait été chef des renseignements militaires des ADF, qui a été arrêté à Uvira en janvier 2022. Autant qu'il n'y a pas très longtemps ici, le 8 mars 2024, au Grand Nord, on avait présenté 32 collaborateurs des ADF qui avaient été aussi capturés. Mais ces genres de personnes sont très nécessaires. Leur interrogatoire peut permettre d'avoir des renseignements les plus importants sur les ADF, c'est-à-dire la localisation de leurs bases, la localisation de leurs centres de formation, leurs canaux de financement, le canal par lequel ils recourent pour obtenir leur armement, et tout ça de manière à les détruire. Mais tous ces gens qu'on arrête, qui se dirigent l'ADF, qu'est-ce qu'on en fait par la suite? On n'en entend plus parler.
Merci.
Comment est-ce que notre gouvernement fonctionne sur ce cas-là? Ça nous laisse vraiment pantois.
Merci, Romain Gras. Là, nous sommes encore face, n'est-ce pas, à ces partenariats entre d'un côté l'Ouganda et de l'autre côté la RDC. Et ici, la menace, c'est la menace EDF. Et les opérations conjointes FARDC et UPDF ont fait que ces rebelles, ces terroristes EDF puissent, n'est-ce pas, se déplacer. Et aujourd'hui, ils sont dans les territoires des Loubéraux. Et face à cette expansion, n'est-ce pas, des EDF, que devrait faire le gouvernement congolais? Parce que on se rend compte que la stratégie n'arrange pas la RDC dans ce sens qu'on neutralise pas la menace, on ne fait que délocaliser la menace. Que devrait faire la RDC?
Tout d'abord, je pense qu'il y a, avant l'opération Shuja, il y a eu d'autres opérations, d'autres cadres d'opérations menées par la RDC face aux EDF qui n'ont pas non plus fonctionné. Il y a un constat qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'après 3 ans après le lancement de l'état de siège, qui a déjà été maintes fois critiqué dans diverses structures institutionnelles. 2 ans et demi après le début de l'opération Shuja, il y a un constat, c'est que les EDF demeurent le groupe armé le plus meurtrier qui agit actuellement dans l'est de la RDC. Il y a déjà ça pour dire que le bilan de l'opération Shuja en elle-même n'est pas à la hauteur des attentes qu'elle pouvait en principe susciter lorsque ça a été lancé en novembre 2021. Ensuite, il y a lieu, vous l'avez dit, de s'interroger sur ce qui a pu susciter cette dispersion des éléments des ADF. Et c'est là où, effectivement, on peut parler de la stratégie qui est actuellement adoptée dans le cadre de l'opération Shuja. On sait qu'au début du mois de mai, il y a eu une réunion des chefs d'état-major congolais et ougandais à Kassindi, il me semble, pour évaluer justement cette opération. Alors même si, de ce qui ressort de certains échanges avec l'entourage du président, on sait, pour les raisons évoquées dans le thème précédent, que la partie congolaise est à la fois méfiante et partiellement insatisfaite des résultats de cette mission, on maintient un discours relativement positif autour de Shuja, en mettant en avant la neutralisation ou la reddition de certains cadres des ADF. Mais la réalité, c'est que l'activité de ce groupe armé reste très forte. Elle a notamment été récemment dans le triangle Beni, Mangina, Biakato. Ça a entraîné des mouvements de population très importants dans des zones qui, à l'origine, ne sont pas vraiment protégées ni par les FARDC, par les UPDF dans le cadre de cette opération. Et le problème, c'est que tout ça a été suivi d'opérations de bombardement dans le triangle précité qui ont eux-mêmes dispersé les ADF et les ont poussés dans des zones où ils n'opéraient pas jusque-là, ce qui est le cas notamment du territoire de Lubero, un territoire qui pose un double problème parce que c'est notamment vers celui-ci que le M23 poursuit une partie de son offensive actuellement. Donc là, il y a un double risque sécuritaire, j'allais dire, qui se présente dans cette partie de la province avec l'échec, on peut dire, actuel de l'opération Shuja à endiguer la menace ADF. Et l'évolution telle qu'on la constate aujourd'hui du conflit entre le M23 et l'armée congolaise.
Merci Madame Aimée Manyong. Comment vous expliquez la résilience d'un groupe armé comme les EDF quand on sait que c'est un groupe armé, n'est-ce pas, qui fait face depuis plusieurs années à deux armées classiques? Comment vous expliquez cela, la résilience de ce groupe armé?
Les EDF, en tout cas, c'est mon opinion. J'ai dit, c'est...
Allô? Allô, madame, est-ce que vous... Voilà, apparemment, elle a un problème avec sa ligne téléphonique. Merci, on prend une petite pause en écoutant « Plus rien ne m'étonne » de Tiken Jafakoli et on revient juste après.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses faire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
partager le monde. Plus rien ne m'étonne. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi.
C'était plus rien ne m'étonne du reggaeman ivoirien Tiken Jafakoli, Tiken Jafakoli qui n'est plus à présenter. Je rappelle que nous avons dans cette émission Bélar Mbouy, le journaliste et directeur du site d'information économique dénommé finance-com, Madame Aimée Magnong, même si sa ligne pose problème, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repaf en sigle, et les chefs d'équipe au cadre des consultations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Gras, il est journaliste au magazine Jeune Afrique. Le président Félix Tshisekedi a lancé jeudi 20 juin à Lubumbashi les trains du service national. Pour le commandant de ces services, le général Kasongo Kabuit, ces engins vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail du centre de Kanyamakasese. Il s'agit notamment de l'acheminement des équipements et autres produits nécessaires vers Kanyamakasese, mais aussi l'évacuation des fruits de la récolte vers les grands centres de consommation, sans dépendre de la disponibilité des trains de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle. Je ne sais pas si Madame Aimée Magnong est là, parce qu'en fait, c'est elle qui va... Madame Aimée Magnong, vous êtes là?
Effectivement, je suis en train de vous suivre.
Ok, merci. Vous avez souhaité nous parler de ce sujet, alors que tout semble bien marcher avec les services nationaux. Vous choisissez de parler des défis qui peuvent freiner l'élan Kanyamakasese. On vous écoute, Madame Aimée Magnong.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. J'ai voulu qu'on puisse parler, évoquer la question Kanyamakasese dans cette émission pour élever certains défis que les services nationaux semblent minimiser ou peut-être renvoyer à plus tard, sans savoir que cela avait un impact très capital sur cette initiative de M. Laurent Désiré Kabila. Nous savons que le service national, c'était un service qui faisait un recrutement volontaire des jeunes patriotes qui voulaient trouver des alternatives à leur formation. Et ils ont été recrutés, envoyés à Kanyamakasese pour des formations. Et ils sont devenus des bâtisseurs dans différents domaines. Et le service national a créé de l'emploi, et que nous avons beaucoup applaudi. Et ce que j'ai encore beaucoup plus aimé, c'est quand le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a relancé cette idée avec également l'initiative de mettre même en place, sur place à Kanyamakasese, c'est une école portant le nom de ces héros nationaux. Ça, c'est des efforts très louables. Et quant à voir du côté opérationnalité, du recrutement des Kanyamakasese, d'abord ça pose un problème, maintenant ça devient un recrutement forcé, ce qui fait un souci majeur parmi la population, étant donné que la situation politique actuelle est très sensible et qui est en train d'émerger un conflit latent entre les communautés. On a voulu que le recrutement soit plutôt volontaire pour créer beaucoup plus de motivation dans les chefs de ces jeunes bâtisseurs. Et le volet du recrutement des Koulouna, c'est aussi une bonne chose, dans ce sens qu'on est en train de procéder à une rééducation, un encadrement des délinquants qui sont en train de pourrir la vie à la population. Mais j'aimerais souligner une chose. Les résultats, nous les voyons du côté des formations, des gens qu'on a recrutés à gauche, à droite. Mais il faudrait d'abord, si on doit revenir dans les recrutements, que cela ne se passe pas de la manière que c'est en train d'être fait aujourd'hui. Créer la panique dans la population, ça dénature même la mission de Kanyamakasese. Au lieu que les jeunes s'apprêtent volontairement à cet exercice, ils commencent à fuir, ils commencent à critiquer, et du coup, ça crée une sorte de psychose dans la ville, dans différentes provinces, et c'est un souci majeur. Alors, aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a deux jours, nous avons vu les jeunes revenir de l'Afrique du Sud avec des locomotives. Ils ont appris à conduire et le chef de l'État est venu pour inaugurer toutes les voitures qui vont commencer à cheminer les produits de Kanyama Kasese vers les différents centres de commercialisation et de consommation. Mais il y a un souci majeur, c'est la voie ferrée. Parce que la SNCC connaît des problèmes. Les voitures, est-ce que c'était une urgence pour l'instant pour l'évacuation des produits de Kanyama Kasese? Moi, je pense qu'il devrait d'abord commencer par arranger la voie ferrée. Il y a des tronçons qui sont quasi inexistants. Il y en a qui sont terriblement impraticables. Alors moi, je pensais que pendant qu'on est en train de regarder comment évacuer les produits qui viennent de Kanyama Kasese par la voie ferrée, mais qu'on regarde au support même. Le fondamental, c'est cette voie ferrée. Il y a un penseur qui a dit, je crois c'est Henri Morton Saleh, si je ne m'abuse pas, qui avait dit « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut même pas un pays ». C'est ça, effectivement. Parce que le chemin de fer relie plusieurs provinces, surtout dans la partie sud où nous nous trouvons. Et c'est un grand trafic qui s'opère sur ce tronçon-là. Alors, il faudrait qu'on puisse penser à retravailler sur le réaménagement du tronçon, équiper la RDC de nouveaux équipements, de matériel, de la technologie avancée pour refaire les rails, placer les barres en dessous, solidifier le sol, travailler sur le pont et les différents tronçons qui sont un peu délicats pour le passage des trains afin de faciliter non seulement le passage des marchandises, mais d'assurer aussi la sécurité des passagers à bord de ces trains. Voilà pourquoi nous avons voulu évoquer ces questions, parce que Kanyama Kasese, c'est vraiment une question d'intérêt économique très, très capital. Et les effets se font sentir quand les choses sont réglées avec beaucoup de dextérité, comme le fait le commandant Kabouk. Mais il y a le problème fondamental du chemin de fer qui doit être pris de sérieux. Sinon, c'est la vie des Congolais qu'on mettrait en danger. Et c'est de l'argent pris par la fenêtre, parce que toutes ces productions qui seront faites à Kanyama Kasese risquent de pourrir sur place parce qu'ils n'auront pas le moyen de les évacuer. Au cas contraire, ils penseraient peut-être à un transport aérien ou routier, mais ça serait encore beaucoup plus cher. Mais il y a aussi des transports routiers qui ne sont pas en état et qui ne pourraient pas être en mesure de prendre toutes ces charges pour les évacuer vers des centres où les besoins se font sentir. Voilà pourquoi nous avons voulu évoquer cette question.
Merci. Bernard Mbouyi, si le service national est en train d'accomplir des exploits avec notamment la formation de ces jeunes bâtisseurs, et avec les travaux, n'est-ce pas, que ces jeunes bâtisseurs sont en train de réaliser sur le terrain, est-ce que la faiblesse de ces services nationaux ne serait pas, comme l'a dit Madame Aimée Manyong, ce qui est souvent, depuis un certain moment, évoqué par certains observateurs, les recrutements forcés des jeunes, ainsi que les manques des voies d'évacuation, des produits, n'est-ce pas, qui proviennent, n'est-ce pas, du travail de ces bâtisseurs.
Ouais, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans ce que Madame Manyong a dit tout à l'heure. Elle a dit qu'elle était contre le recrutement forcé, d'une part, mais de l'autre, elle a salué le fait qu'on envoie des Kuluna dans le service national. Je crois, à ma connaissance, c'est ça le recrutement forcé, c'est les Kuluna qu'on envoie dans le service national, sans leur demander leur avis, on les force à y aller travailler. Est-ce qu'à part les Kuluna, est-ce que le service national est-il en train d'engager des gens de manière forcée? Je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là, peut-être elle pourrait m'éclairer lors d'une suivante prise de parole de sa part.
Il y a des ONG qui ont dénoncé cela, le recrutement forcé, oui. Et pas le service national, des gens qui n'ont rien à voir avec les phénomènes Kuluna, mais qui sont, quand on voit l'aspect de la personne, on la confond, n'est-ce pas, à un Kuluna et on l'amène des forces à Kanyama Kasese. Oui. Évidemment, c'est des choses qu'il faut vérifier.
C'est ça justement, le problème est celui-là, il y a un principe qu'on est en train qu'on a mis en place depuis un certain temps, c'est de considérer que lorsqu'on arrête un délinquant, un voyou, un tueur, un assassin, on doit l'envoyer au service national de force. Non, les travaux forcés sont interdits dans l'arsenal juridique de la RDC. Donc toutes les peines de notre code pénal qui se soldaient par une condamnation aux travaux forcés sont automatiquement commuées en peine de prison. Parce que les travaux forcés sont interdits. Donc lorsque quelqu'un se promène avec une machette, découpe les gens la nuit et qu'on l'arrête, il doit être jugé et condamné et faire sa peine en prison. Il ne doit pas être envoyé dans un service national, non. Là, on viole même aussi son propre droit. Ce n'est pas normal. Donc on l'envoie faire un travail de force qu'il ne souhaite pas faire, alors qu'il devrait purger sa peine en prison quelque part. Donc ce principe-là doit déjà être sérieusement remis en cause. Le service national doit pouvoir travailler avec des volontaires, des gens qui ont la conscience de vouloir bâtir leur nation, de contribuer à son épanouissement, à son développement. Ce n'est pas le creuset des voyous, des bandits, des grands chemins. Non, ce n'est pas ça le service national. Dans d'autres pays où ça fonctionne, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. La Tanzanie est juste à côté de nous. C'est Laurent Désiré Kabila a institué le service national chez nous, il s'est inspiré de la Tanzanie, où il a vécu pendant de longues années. C'est vraiment le creuset de la formation de la nation. C'est ça que ça doit pouvoir être. Deuxièmement, concernant les infrastructures ferroviaires, Madame Magnon a parfaitement raison, parce que dans un territoire qui m'est particulièrement cher, parce que c'est mon territoire d'origine, le territoire de Demba, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux, c'était épouvantable. Dans le territoire de Demba, Demba se trouve entre la ville de Kananga et le port d'Ilebo. Demba est tout juste au milieu, là, quelque part. Alors, il s'est creusé deux ravins de part et d'autre de la voie ferrée. Et le ravin a commencé également à dégrainer le sable en dessous des rails. Alors, comme les autorités publiques, les pouvoirs publics ne font absolument rien, la population est venue essayer de remblayer un peu de sable sous la voie ferrée, de façon à permettre à ce que le train qui était du côté d'Ilebo puisse passer pour aller du côté de Kananga. La foule était là amassée pour observer la scène. Le train est venu pour passer, mais non, il s'est renversé totalement dans le ravin. On croirait un mauvais film d'Hollywood, mais c'est pourtant ça la réalité. Donc, outre cela, il se trouve que nos rails sont très vieux, il date de la période coloniale. On n'a jamais refait ces rails-là.
Merci, Romain Gras. On va finir cette émission avec vous. De la France, c'est d'où vous intervenez. Comment vous appréciez cette actualité?
Ouais, je pense que, bon, j'allais dire, le gros d'analyse a été donné par mes deux co-intervenants. L'opération en elle-même est évidemment louable sur le fond. Après, il faut qu'elle puisse avoir les moyens de se développer et surtout qu'elle puisse être, je pense, mieux légiférée. C'est ce qui ressort un peu, je pense, des interventions de mes deux prédécesseurs. Parce que si on prend, par exemple, la question des coulonnages, c'est un problème de criminalité urbaine qui se pose depuis des années. Il y a eu des dizaines, sans doute, d'interventions. Il y a encore pas si longtemps que ça, début avril, c'était le vice-premier ministre de l'époque, en charge de la sécurité et de l'intérieur, M. Peter Casady, qui lançait, il me semble, l'opération Panthère Noire, où c'était encore une fois piloté par la police nationale pour combattre le banditisme et la criminalité dans plusieurs villes du pays. Mais il y a une forme de scepticisme, en fait, qui s'est installée vis-à-vis de ces différentes opérations pour gérer la question de la criminalité urbaine. Pour autant, la solution qui se pose avec le service national, et ça a été soulevé par différentes ONG ces derniers temps, c'est la question de comment est-ce qu'on légifère sur les profils et le cadre dans lequel on envoie les gens dans ce service national. Surtout, j'allais dire, pour compléter sur cette question, à un moment où la plupart des prisons de ce pays sont en état de surpopulation, avec dans pas mal de cas beaucoup de jeunes assimilés là qui ne sont pas forcément jugés dans l'immédiat. L'autre défi qui se pose, il a été abordé aussi par mes deux co-intervenants, donc j'y reviens très très rapidement, c'est l'état du système ferroviaire qui est un problème qui se pose depuis des années et qui est un défi à relever pour les ministres successifs de ce secteur. Il y a quelques années, il me semble qu'on parlait de plus de la moitié des quelques 3600-700 km de chemin de fer qui étaient en mauvais état. La situation, elle n'a pas vraiment évolué. Donc pour que tout ce système, encore une fois, dont l'intention est louable, puisse être efficace, il faut que les moyens soient mis à disposition d'un tel mécanisme. C'est sans doute un début, mais ça ne peut pas survivre que là-dessus.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Aimé Magnong, Bérard Mbouy et Romain Gras. Merci aussi à Polydor Bassoumra qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Seboujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Tantine Betena de Dindo Yogo, chanson sortie en 1982 dans l'orchestre Langa Langa Star, et on se retrouve le samedi prochain.
Oh Tantine Betena, oh mon fort.
Qui prépare pas, oh Tantine Betena, c'est l'autre Kumisa qui toque à maman. Yo monina, ne quoi maman la vie jouer. Mais ma fille a un autre compagnie. Bétena, l'élona, bon zéli, yolo, yémonanga. Pauvre maman, moi, y'a rien à l'opico. Qui s'appelle Kaniba, domiso, babengi, en fleur rose. Rosalie, son papa, va dire. Rosalie, brita, y'a l'opico. Oh, la belle, à la voix douce. Qui s'envoie l'homme qui n'a pas mon âme. Yo qui s'appelle mon bonbon aïe. Madame Bosama d'ailleurs,
Bosali Moni Maya, parce qu'il t'en va à Rosé. Yahweh apesa yo kitoko yango bazali ko kufela ngongo.
Yebanzete koza monoka kokumisa kitoko na yo. Bote na yo ezali minzoto pe mampata.
Kopesi bango pe mafu. Urururu na bote na yo ya litoma. Koto eko kondo na makanisi ya mi. Bona babote a machie, on est ma cafe maloko la fleur et rose. C'est bon qui a solo baye ma fe baka mateo, baye ba ozali la jolie. Soto e kokoto na makanisi ami, bona babote a machie.
Ayo, ayo, mon corps na wio.
Ayo, 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 kote te nao. Ayo, ayo, kita pa wwe ma shi mama.
Ayo, tampi singa bango, kote te na mwana mboka. Ayo, 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 shiri naga.
Ayo, 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 kote te nao. Ayo, ayo, kita pa wwe ma shi mama.
Ayo, 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 aluta maito, eboloko lai lai o, gozi bozi andi.
Ayo, 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 kome te nao, ayo, ayo, kitoko, kwea mashi mama.
Ayo, leli ebe tena mwana mboka, ana wio, ah, mamae, aleli shirinanga.
Ayo, 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 kome te nao, ayo.
Ayo kita pa ngwe ya mashi mama. Bale la ya moti do ni ni ayo. Ayo ayo mwore do na wiyo.
Ayo, 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 ngobe de awo. Ayo, ayo kita pa ngwe ya mashi mama.
Hey, 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 hey
kan te ni da bo.